écoutez RFI, il est 15h à Paris, 13h en temps universel.
RFI Midi, Marion Cazanov.
RFI Midi, dernière partie. On fait le tour de l'actualité des Amériques. On reviendra d'abord sur la convention républicaine de Milwaukee, grand oral du colistier de Donald Trump, J.D. Vance, attendu tout à l'heure. Le programme de Trump, en tout cas, reste flou, mais il pourrait s'inspirer d'un think tank conservateur à la feuille de route radicale. Dans la revue de presse, le plaidoyer de Joe Biden contre les armes à feu. Il veut notamment interdire le type d'armes utilisées dans la tentative d'assassinat de son rival Donald Trump. En Haïti, l'arrivée d'un nouveau contingent de policiers kényans dans le cadre de la force multinationale de sécurité. Et puis dans le journal des Outre-mer, Benoît Ferrand, on parlera du nouveau centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Oui, il aurait dû ouvrir ses portes en 2022, puis en 2023, puis courant 2024. Eh bien, ce sera finalement les premiers patients seront accueillis en janvier 2025.
À tout à l'heure, Benoît. Mais d'abord, c'est votre journal, Charlotte Hydrac.
RFI Midi.
Oui, et d'abord, cette dernière information en France, c'est un rapport qui met à mal la figure de l'abbé Pierre, prêtre résistant, militant contre l'exclusion et le mal-logement, décédé en 2007. L'abbé Pierre accusé d'agression sexuelle présumée par plusieurs femmes. C'est ce qui ressort d'une enquête indépendante qui vient d'être rendue publique par l'ONG Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre, des faits qui auraient été commis entre la fin des années 70 et 2005. On y reviendra dans nos prochaines éditions.
C'est une tradition au Royaume-Uni et une cérémonie solennelle. Charles III a prononcé le discours du roi.
Un discours en réalité écrit par le gouvernement, donc la nouvelle équipe travailliste du Premier ministre Keir Starmer, après 14 ans de pouvoir conservateur, Daniel Valot.
Charles III, arrivé en carrosse dorée, coiffé de sa couronne impériale, a observé à la lettre ce rituel fondamental pour le bon fonctionnement des institutions politiques du royaume. Certains détails remontent au XVIIe siècle, époque où le Parlement avait conspiré contre le roi. Sur le fond, Charles III s'est contenté, comme il se doit, de présenter le programme de Keir Starmer, une sorte de catalogue de ce que veut faire le nouveau gouvernement.
Mon gouvernement présentera des mesures visant à réduire de moitié la violence à l'égard des femmes et des filles. Des mesures seront prises pour que les personnes retrouvent un emploi après la pandémie de Covid. Des mesures seront proposées pour supprimer l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les frais de scolarité des écoles privées, ce qui permettra de financer 6500 nouveaux postes d'enseignants.
Parmi les annonces les plus fortes, la suppression de la centaine de membres héréditaires de la Chambre des Lords, le durcissement de la lutte contre l'immigration illégale et un fonds d'investissement public créé pour financer la transition écologique. Enfin, une fois expirées les licences accordées aux compagnies privées, le service ferroviaire sera de nouveau nationalisé. Des mesures très fortes pour certaines, d'autres plus anecdotiques pour un parti travailliste qui revient au pouvoir après 15 années d'absence.
Daniel Valot.
Tous derrière Donald Trump à la Convention des Républicains aux États-Unis.
L'ancien président au sommet de sa popularité après avoir échappé à une tentative d'assassinat et qui peut compter désormais sur le soutien de ses anciens rivaux à la primaire républicaine. Nikki Haley et Ron DeSantis, les ex-frondeurs, sont rentrés dans le rang, David Thompson.
Elle monte sur scène sous les huées d'une partie du public. Beaucoup de républicains ne lui pardonnent toujours pas d'avoir osé défier Trump durant la primaire. Mais ce soir, Nikki Haley vient en paix.
Le président Trump m'a demandé de venir parler à cette convention et j'ai accepté au nom de l'unité.
L'ancienne rivale numéro 1 de Trump participe même à son couronnement.
Donald Trump a mon soutien total, point à la ligne.
Depuis sa tribune, Donald Trump en majesté affiche un large sourire, d'autant que Nikki Haley est suivie de son ancienne bête noire. Le gouverneur de Floride qui promettait de tourner la page des années Trump vient lui aussi faire allégeance au chef, qu'il avait pourtant humilié durant la primaire à coups de surnoms méprisants.
Let's send Donald Trump back to the White House.
Tout le parti fait désormais bloc derrière Trump. Dans la salle, les délégués savourent leur victoire.
Beaucoup de gens dans la salle ce soir ont soutenu Nikki Haley au début, mais Donald Trump est maintenant notre candidat. Tout le monde est derrière lui.
C'est un grand symbole d'unité de les voir tous les deux venir soutenir Trump ce soir. Ce n'est pas une humiliation, c'est un signe d'humilité.
Humilité envers le chef incontesté, Donald Trump. Cette convention républicaine consacre sa domination absolue du parti républicain. David Thompson, Milwaukee, RFI.
Un coup d'arrêt dans des pourparlers entre les États-Unis et la Chine sur le contrôle des armes et la non-prolifération nucléaire. Pékin a suspendu les discussions, décision en représailles à des ventes d'armes par Washington à Taïwan.
À présent, l'étrange affaire d'une élue locale disparue aux Philippines.
Oui, elle s'appelle Alice Guo et elle s'est fait la belle. Cette maire d'une petite ville est accusée, entre autres, d'espionnage au profit de la Chine et de blanchiment d'argent. Un scandale qui s'inscrit dans le contexte de relations très tendues entre Manille et Pékin, dont les navires s'écharpent fréquemment en mer de Chine méridionale, Nicolas Roca.
C'est un scénario digne d'une série télé en plein cœur de tensions géopolitiques. Alice Guo, la maire de Bamban, fait face à une série impressionnante d'accusations depuis la découverte sur sa commune d'un gigantesque centre d'arnaque. Maquillé en casino en ligne, le complexe était construit sur un terrain qu'elle détenait partiellement. Près de 700 victimes ont été découvertes. Séquestrées, elles étaient forcées à séduire des Chinois et des Vietnamiens sur Internet pour leur soutirer de l'argent. L'édile nie son implication et ne s'est pas présentée aux deux dernières audiences de la commission d'enquête du Sénat chargée d'éclaircir l'affaire. La semaine dernière, un mandat d'arrêt a été émis à son encontre, mais elle reste introuvable. Le passé très trouble d'Alice Guo fait aussi émerger des accusations de corruption et d'espionnage au profit de son pays d'origine, la Chine. En s'appuyant sur les données des services de l'immigration, un sénateur assure qu'elle serait une ressortissante chinoise du nom de Guo Huaping, ce qui l'interdirait d'exercer un mandat local. L'écho médiatique de l'affaire a été renforcé par l'affrontement latent pour la souveraineté en mer de Chine méridionale. La présence continue de navires de Pékin dans la zone économique exclusive philippine a renforcé le sentiment anti-chinois déjà très présent dans l'archipel.
Nicolas Roca, un méga gisement de gaz naturel découvert en Bolivie.
Plus précisément en Amazonie, annonce du président bolivien. C'est une bonne nouvelle pour les autorités, même si l'exploitation de cette réserve devrait prendre en fait plusieurs années et les conséquences sur l'environnement sont incertaines également en Île Saba.
L'annonce est arrivée à point nommé le jour de l'anniversaire de la ville de La Paz. Le nouveau gisement découvert par l'entreprise publique chargée des hydrocarbures compte environ 10 millions de mètres cubes de gaz, ce qui devrait rapporter un peu moins de 7 milliards de dollars au pays, selon le président bolivien. Pourtant, l'exploitation de ce gisement sera tout sauf facile, explique l'ingénieur environnement Georges Campanini.
C'est une zone isolée, difficile d'accès pour la partie logistique et loin de nos marchés, car les principaux acheteurs que nous avons sont le Brésil et l'Argentine.
Pour le chercheur, cette découverte ne devrait pas permettre de résoudre la crise énergétique et économique qui secoue le pays, car il faudra plusieurs années avant d'exploiter le gisement. L'exploitation servira surtout le secteur des hydrocarbures.
Je pense que ça servira comme une autosubvention pour le secteur, pour lui permettre de développer cette nouvelle frontière pétrolière et gazière en Amazonie. Mais à part cela, il y aura peu de bénéfices.
À cela s'ajoutent les risques de pollution pour les communautés locales et les peuples autochtones dans une région déjà très affectée par l'extraction d'or. Et Georges Campanini de rappeler qu'il ne s'agit que du début des projets pétroliers et gaziers en Amazonie bolivienne, que ce soit avec les hydrocarbures ou le développement de l'agronégoce, le gouvernement bolivien, l'Amazonie en ligne de mire. Nil Sabin, La Paz, RFI.
Et puis, chose dite, chose faite, Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est jetée à l'eau ce matin, comme annoncé un plongeon dans la Seine à quelques jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris qui prévoit des épreuves dans le fleuve. Et au-delà de l'opération de com', c'est tout un symbole, hein, alors que la Seine est déclarée impropre à la baignade depuis 1923.
C'était le journal de Charlotte Hydrac. Il est 13h09 en temps universel. On passe au journal d'Haïti et des Amériques.
Le journal d'Haïti et des Amériques sur RFI.
Tout sourire à Milwaukee, Donald Trump ovationné une nouvelle fois à la convention républicaine hier dans le Wisconsin. Toujours avec un pansement à l'oreille là où il a été blessé après la tentative d'assassinat contre lui. De nombreux cadres républicains lui ont apporté leur soutien, un moment d'unité où même ses anciens rivaux de la primaire sont rentrés dans le rang et se rangent derrière le désormais candidat officiel des républicains, le gouverneur de Floride Ron DeSantis.
Life was more affordable when Donald Trump was president.
La vie était moins chère quand Donald Trump était président. Nos frontières étaient plus sûres sous l'administration Trump. Et notre pays était respecté quand Donald Trump était le commandant en chef des forces armées. Renvoyons Joe Biden dans sa cave et renvoyons Donald Trump à la Maison-Blanche.
Volte-face aussi de celle qui, à l'origine, n'aurait même pas dû être présente à cette convention, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, invitée après la tentative d'assassinat de Donald Trump et qui s'est livrée à un exercice d'autocontrition.
My fellow Republicans. Mes chers républicains, Donald Trump m'a demandé de parler à cette convention au nom de l'unité. Je voudrais d'abord être parfaitement claire. Donald Trump a mon soutien inconditionnel. Point barre.
Et à suivre aujourd'hui la prise de parole de J.D. Vance, le potentiel futur vice-président américain aux idées ultra-conservatrices, sans doute encore plus radicales que Donald Trump. Les idées, justement, on les retrouve dans le programme officiel du Parti républicain, 16 pages pour l'instant peu détaillées, mais il existe une feuille de route plus précise, non officielle, qui a été élaborée par le très conservateur think tank Heritage Foundation. C'est un programme de gouvernance connu sous le nom de Project 2025, Projet 2025 en français. Et Donald Trump pourrait s'en inspirer. On en parle avec vous, Achim Lippold, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Alors que trouve-t-on dans ce Project 2025 qui suscite d'ailleurs beaucoup d'interrogations aux États-Unis?
Exactement, oui, c'est un programme très détaillé, environ 900 pages, donc beaucoup plus détaillé que le programme officiel du Parti républicain, élaboré depuis l'été 2023 par la très conservatrice Heritage Foundation. Des conseillers de Donald Trump ont été impliqués dans ce projet. C'est un paquet de mesures censées être appliquées dès janvier 2025, donc si Donald Trump est réélu. Il est publié en ligne, donc accessible à tout le monde. Et l'idée derrière cette initiative, elle est très simple. En 2016, lorsque Donald Trump a été élu, il ne s'y attendait pas. Pas du tout. Il n'a pas été préparé pour diriger la première puissance mondiale. C'était une présidence, souvenez-vous Marion, assez erratique, chaotique, qui donnait l'impression d'une improvisation permanente. Alors ça, c'était le Donald Trump de 2016, mais le Donald Trump de 2024 ne veut pas commettre les mêmes erreurs. Cette fois-ci, il part bien préparé à la reconquête de la Maison-Blanche. Et l'un de ses outils est justement le projet 2025, cette feuille de route politique très, très détaillée.
Et qu'est-ce qu'elle contient, Arim ?
Des mesures assez radicales, beaucoup plus radicales que celles proposées par le programme officiel du Parti républicain, adopté lundi dernier. Le projet 2025 prévoit par exemple la mainmise sur l'administration, comme l'explique Romuald Ciora, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS.
Lorsque un président est élu aux États-Unis, avec lui change bien évidemment le gouvernement, mais aussi l'administration. C'est-à-dire qu'environ 4000 postes, 4000 fonctionnaires. Aujourd'hui, à travers le projet 2025 et les projets de la campagne Trump, il a été officialisé que si Trump était réélu, ce n'est pas 4000 fonctionnaires qui changeraient, c'est 40 000 fonctionnaires. C'est assez incroyable. Il ne s'agit plus des principaux fonctionnaires, il ne s'agit plus des chefs de service des principales agences, il s'agit quasiment de toutes les têtes des établissements fédéraux à travers les États-Unis.
Mais ce n'est pas tout, Marion. La Fondation s'est aussi chargée de recruter justement ces fonctionnaires censés servir sous une nouvelle administration Trump. Et il y a deux critères de sélection. Les candidats doivent jurer loyauté absolue à Donald Trump et adhérer à son mensonge que l'élection de 2020 lui a été volée.
Et la Fondation a commencé à recruter depuis l'été dernier, c'est-à-dire depuis un an. À raison de plusieurs centaines d'entretiens par semaine. C'est une véritable machine à créer une armée trumpiste. Aujourd'hui, je crois que le casting est quasiment bouclé. Les 50 000, on va jusqu'à 50 000 fonctionnaires trumpistes sont prêts à entrer en fonction dès le 20 janvier 2025, si Trump est élu une nouvelle fois.
Mais j'imagine que ce n'est pas tout. Arim, quelles sont les autres mesures prévues?
Alors, il y en a beaucoup, beaucoup de mesures. Le ministère de la Justice, par exemple, sera placé sous la tutelle de la Maison-Blanche. Les droits des minorités seront restreints. Donald Trump souhaite également éteindre les pouvoirs du président au détriment du Congrès et prendre le contrôle sur l'ensemble des gardes nationales qui dépendent aujourd'hui encore des gouverneurs.
Alors tout cela est quand même assez inquiétant. Certains commentateurs et même la vice-présidente Kamala Harris évoquent le risque d'une dérive vers une dictature.
Oui, tout à fait. Les démocrates mettent depuis un certain moment en garde contre le projet 2025. Alors va-t-on vers une dictature si le programme est appliqué? Eh bien, le chercheur Romuald Sirha n'y croit pas du tout.
Les États-Unis ne se dirigeront pas vers une dictature, arrêtons de dire, j'ai entendu ça à droite à gauche, ni vers un régime autoritaire dans un premier temps, mais dans un régime semi-autoritaire. Alors qu'est-ce qu'un régime semi-autoritaire? C'est un régime à la Erdogan ou à la Viktor Orban en Hongrie. Donc très rapidement, nous pourrions nous retrouver, après un an, deux ans, dans une Amérique qui ressemblerait à la Turquie de Erdogan.
Et il y a quelques jours, Donald Trump s'était distancié du projet 2025. Est-ce que c'est crédible?
Absolument pas. La presse parle d'un énième mensonge alors que ses propres conseillers, des dizaines de conseillers, ont contribué à l'élaboration de ce programme. En fait, derrière les propos du candidat républicain à la présidence, eh bien, il faut voir plutôt une stratégie électorale.
L'objectif de Trump aujourd'hui est de consolider son élection en séduisant effectivement un électorat plus modéré du côté des républicains. Je vous l'assure, peu de républicains refuseront de voter pour Trump malgré ce que l'on peut entendre à droite, à gauche. Il a vraiment derrière lui le parti et l'électorat républicain. Par contre, effectivement, certains indécis sont encore à séduire, surtout dans certains États, les swing states, ces États qui donnent la clé de l'élection, et aussi une partie plus conservatrice du Parti démocrate. À l'heure qu'il est, sauf coup de théâtre, si Biden continue à s'obstiner à se présenter, Trump devrait, au conditionnel bien évidemment, remporter l'élection.
Oui, dans ce cas, il pourrait donc mettre en œuvre le projet 2025 dès le 20 janvier prochain, lorsque débutera traditionnellement le nouveau mandat présidentiel.
Merci à Rémi Paul pour le dossier américain. Donald Trump doit, on le disait, accepter formellement demain l'investiture du Parti républicain pour représenter son camp à la présidentielle de novembre. Bonjour Vincent Sourio.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Pour la revue de presse des Amériques, et 4 jours après le choc de cette tentative d'assassinat, après les appels à l'apaisement, la campagne reprend ses droits, y compris, Vincent, du côté de Joe Biden.
Oui, plaidoyer hier du président américain. Si nous devons parler de violence en politique, nous devons parler des armes à feu. C'est ce que martèle le président américain. Ne rien faire, dit-il, c'est de la lâcheté pure. Dans son viseur, il y a un modèle en particulier, l'AR-15, fusil semi-automatique tristement célèbre, utilisé lors de la tentative d'assassinat qui a visé Donald Trump il y a quelques jours, mais c'est aussi l'engin que choisissent la plupart des tueurs de masse aux États-Unis. Las Vegas 2017, 58 morts. Uvalde 2022, 19 enfants tués. Sutherland Springs, toujours en 2022, 26 disparus. Impossible en réalité d'aller au bout de cette liste, liste des massacres perpétrés à l'aide d'un AR-15 ces dernières années.
Mais parce que des massacres, il y en a beaucoup trop.
Oui, les drames s'accumulent et rien ne bouge, mais Michelle Norris dans le Washington Post y revient une fois encore. Nous vivons dans un pays, dit-elle, où trop d'armes circulent, où l'accès à ce matériel de guerre est trop facile, où la violence est beaucoup trop présente. Bien sûr, il y a cette image devenue tout de suite légendaire, celle de Trump, l'oreille en sang, le poing levé, criant à ses supporters de se battre. Mais si nous continuons, écrit Michelle Norris, à prendre ce moment comme un exemple de courage individuel plutôt que comme un épisode de vulnérabilité collective, nous n'arriverons jamais à changer et à renouveler le débat sur la place des armes dans la société américaine.
RFI, il est 9h18 à Port-au-Prince.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, un deuxième contingent de 200 policiers kényans est arrivé à Port-au-Prince. C'était hier dans le cadre de la force multinationale de sécurité qui se déploie dans le pays contre la violence des gangs. Quelques 400 policiers sont donc en tout sur place. Correspondance à Port-au-Prince de Marie-André Bélange.
Ce nouveau groupe de policiers spécialisés kényans, arrivés en treillis munis de leurs armes, a été reçu par le commandant de la mission, Godfrey Utongue, avec des pas de danse. À ses côtés, le directeur général de la police nationale. Ramona O'Neill.
C'est le deuxième contingent de policiers kényans faisant partie de la force multinationale venue supporter la police dans le cadre de sa lutte contre les gangs armés dans le pays. Au nom du gouvernement et du conseil présidentiel, je vous souhaite la bienvenue.
Moi, je suis Théo, bienvenue en Haïti.
Le déploiement de ces officiers traduit l'engagement du gouvernement kényan, a déclaré le commandant de la mission, Godfrey Utongue, lors de sa prise de parole sur le tarmac de l'aéroport.
Je demande aux autorités haïtiennes, à la population et à la communauté internationale de continuer à soutenir la mission et la police haïtienne. Nous comptons sur votre soutien.
Selon Utongue, la police nationale a commencé à travailler avec le premier contingent déjà sur place pour aider Haïti à retrouver sa stabilité. Mais depuis leur arrivée dans le pays, ils n'ont mené aucune opération. Ils ont effectué seulement des patrouilles conjointes avec des agents d'unités spécialisées de la PNH. Marie-Adrie Bélange, Port-au-Prince, RFI.
De Port-au-Prince à Toronto, Vincent, la plus grande ville du Canada frappée par des inondations massives.
Toronto, 3 millions d'habitants débordés par des précipitations intenses, 3 tempêtes consécutives et 100 mm de pluie tombées en l'espace de 4 heures, l'équivalent de ce que connaît normalement la ville en un mois. C'est du jamais vu depuis 1941. Image à voir dans le Toronto Star de ces voitures englouties, de ces ponts inondés, de ces autoroutes impraticables et de ces trombes d'eau dans les stations de métro. 130 000 habitants privés d'électricité. Et c'est peut-être Drake, la star du rap canadien, qui a donné le plus d'écho à ces inondations avec une vidéo de sa maison estimée à 100 millions de dollars envahie par 30 cm de pluie à voir sur Instagram.
En Colombie, le président de gauche, Gustavo Petro, signe sa première grande réforme sociale, la loi sur les retraites. Le système reposait jusqu'à présent sur l'épargne individuelle avec des fonds privés. Petro a voulu réformer cela pour mettre en place un système basé sur cotisation à un fonds public. Il a réussi donc à faire adopter cette réforme au Congrès hier. Et pour l'occasion, le président avait appelé ses sympathisants à se rassembler sur la place Bolivar à Bogota devant le Congrès. Reportage de Marie-Ève de Teuf.
Devant l'estrade où parle le président Petro, il y a surtout des vieux. Maria Isabel Vijate, 72 ans, a été toute sa vie employée de maison. Elle n'a droit aujourd'hui à aucune retraite. Elle explique pourquoi elle est venue applaudir son président.
Aujourd'hui, je suis venue pour lui dire merci. Je fais partie de ces femmes qui ont lutté et travaillé toute leur vie pour élever leurs enfants. J'en ai 6 et je veux une retraite parce que la lutte a été dure.
Son voisin, Elmer Castiblanco, qui n'a que 54 ans, soutient lui aussi la réforme des retraites.
C'est un jour historique pour la Colombie. C'est un exemple pour l'Amérique latine. C'est une question de dignité pour 3 millions de personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie pour reconstruire ce pays. Et c'est pour ça que nous soutenons notre président.
Mais la droite colombienne n'entend pas laisser Petro marquer le point. La sénatrice Paloma Valencia s'est manifestée sur les réseaux sociaux.
Dès que le président Petro aura signé la réforme des retraites, je déposerai un recours en inconstitutionnalité contre cette loi.
Les vieux de Colombie n'ont pas encore gagné la partie. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
RFI Midi.
Et on finit votre revue de presse, Vincent Souriau, avec un fail.
Un gros fail, même. En bon français, un échec cuisant pour Ingrid Andress, que vous entendez. 32 ans, jusqu'ici connue comme chanteuse country, 2 albums, 4 nominations au Grammy Award. Et puis, il y a eu ça. Catastrophe, ça fait mal aux oreilles. Catastrophe en ouverture d'un événement de la Major League Baseball, le championnat de baseball américain. Ingrid Andress, comme on l'entend, ravage l'hymne national des États-Unis, fausse note à tous les étages, sifflée par le public en pleine prestation, laminée sur les réseaux sociaux. C'est horrible. Andress s'en est excusée dans un message sur Twitter. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Je ne vais pas vous mentir, j'étais bourré la nuit dernière.
C'est clair.
Je présente mes excuses à tout le monde pour cette interprétation et je commence aujourd'hui une cure de désintox, quoi, afin de bénéficier de l'aide dont j'ai besoin. On lui souhaite, Marion, bon courage, hein, je pense qu'on peut le dire.
Merci Vincent Souriau pour la revue de presse des Amériques. Il est 9h24 à Basse-Terre. 9h24, donc à Basse-Terre, on retrouve Benoît Ferrand pour le journal des Outre-mer. Benoît, d'abord prévu pour 2022, puis 2023, et puis courant 2024, la livraison du nouveau centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe se fera finalement en décembre prochain.
Et les premiers patients, eux, bonjour Marion, devraient être en principe accueillis en janvier 2025. Janvier prochain, des difficultés dans la réalisation des réseaux électriques seraient en cause, comme l'explique le directeur général du CHU, Éric Guyader, au micro de Ludivine Guillolet.
La société Pizzarotti, qui est en charge de la coordination de l'ensemble des corps de métier, a eu du mal à mobiliser l'ensemble des électriciens nécessaires pour faire face à ce chantier qui est d'une ampleur, il faut dire, exceptionnelle. Donc la livraison, qui devait se faire normalement fin août, aura lieu en fin d'année. Et concrètement, les premiers patients que l'on attendait, que l'on espérait pour septembre-octobre, seront accueillis à partir du début de l'année 2025. Les objectifs restent les mêmes. Ouvrir le plus rapidement possible, offrir à la population guadeloupéenne et aux professionnels de santé les meilleures conditions d'accueil et retrouver le capacitaire qui nous fait tant défaut depuis l'incendie de 2017.
On reste en Guadeloupe avec la parution de « Vacances rivées ». Autrement dit, vous l'aurez compris, l'arrivée du temps des vacances sur l'île des Antilles. Vacances rivées, c'est le guide officiel des activités culturelles qui sont et seront proposées cette année aux vacanciers et aux touristes. Chantal Horn.
Ne partez pas sans Vacances rivées, le guide culturel des vacances en Guadeloupe. Il faut l'avoir à portée de main pour découvrir ou redécouvrir les richesses artistiques et culturelles de notre archipel. En un clin d'œil, vous avez les grands événements de juillet-août, plusieurs rubriques, expositions, musique en drive, news musique, littérature et nos spécialités culinaires, notamment cassave, bouquite, agoulou et autres glaces. Maïté Perrault, fondatrice responsable de Caïcafête, et éditrice de Vacances rivées.
Ce guide qui est dans les cartons depuis à peu près 5 ou 7 ans, qui sort enfin, l'objectif c'était de sortir un guide culturel pour les grandes vacances. Quand je dis culture, je parle vraiment de l'art et la culture, c'est-à-dire mettre en avant les expositions, mettre en avant la musique, mettre en avant notre patrimoine immatériel et traditionnel comme le groka, comme les jeux, les jouets traditionnels, mettre en avant aussi les recettes de cuisine et puis des bons plans d'adresse, mettre en avant tous les acteurs comme ça dans l'art et la culture dans un même guide hein, de plus de 50 pages. Et ça me tenait vraiment à cœur pour mettre en lumière tous ces acteurs et toute cette richesse que nous avons sur la Guadeloupe.
Vacances rivées à mettre dans votre valise, Marion, lorsque vous partirez vers Pointe-à-Pitre. Bon après-midi, à demain.
Merci Benoît Ferrand, à demain pour le journal des Outre-mer. On referme ce journal d'Haïti et des Amériques en musique avec le groupe vénézuélien Los Amigos Invisibles qui nous chante La Canción Ecológica.
RFI Midi.
Preparándonos para la gozadera y el disfrute sano del fin de semana, aquí nuestro pronóstico del clima. La temperatura continúa muy caliente con vientos tibios que soplan y estimulan a las regiones del sur. Ráfagas de vientos huracanados y alta probabilidad de una tormenta eléctrica tropical.
Si los mares se secan mañana, te juro por Dios que me voy pa'l sol a buscarte a ti y lo que tuvo semana, porque si yo me siento mejor.
Es una cosita chévere, es una cosita chévere, lo que sentimos tú y yo, mujer, es una cosita chévere. Siempre al 100, todos juntos hasta el final, como si la vida nos llevara en un tren. Ven solamente, tómame, que yo también.
le groupe vénézuélien Los Amigos Invisibles qui chante la canción Ecolorica. Et c'est ainsi que s'achève RFI Midi, votre édition d'information de la mi-journée. Merci à Yann Eligouin qui était à la réalisation, Véronique Rigolet à la rédaction en chef. Dans quelques minutes sur RFI, vous retrouvez de vive voix Pascal Paradou est à Avignon. Il est bientôt 15h30 à Paris. Excellente journée à l'écoute de Radio France Internationale.
RFI, la sélection du mois.
Menahem Street Band et Roger. Victoni avec Asake.
RFI Musique.